Jessica va se présenter elle-même. Mais, et je vous ai déjà dit que c'est ma fille. Mais j'aimerais au moins qu'on prie pour toi tout de suite. Puis tu donneras plus de détails sur qui tu es. Et je crois qu'il y a un PowerPoint également. On a un titre vraiment intéressant. La Bible, livre dangereux? Non, explosif. Non.
En fait, j'avais juste dit la puissance de la Bible, mais
oh, pardon.
J'aime ce que toi tu viens de dire.
OK. Alors, il ne faut pas m'écouter, moi.
Bon, on peut parler deux. Je pense que c'est bon.
Oui, d'accord. Livre puissant, puissance de la Bible. Alors, prions. Oui, Seigneur, je n'ai pas encore prié pour notre messagère de ce matin. Remplis-la de toi, remplis son cœur de ton courage, de ton audace, pour nous communiquer qu'est-ce qui vient de ton cœur, Seigneur. Merci pour cette Bible et que tu aimes, mais c'est surtout nous que tu veux aimer à travers elle. Alors, Père, dirige Jess, remplis-la de ton esprit, mets-la à l'aise et puis ouvre les oreilles de notre cœur pour entendre et obéir par la foi. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen.
Juste ajuster rapidement. Mais bonjour tout le monde, bon matin. Mon nom est Jessica Debanet-Thiessen, puis c'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, j'ai grandi dans cette église, donc c'est un moment fort pour moi d'être ici avec vous ce matin. Je suis ici avec mon mari Paul, on habite à Vancouver, en Colombie-Britannique, donc l'autre côté du Canada. Paul, il travaille dans une organisation chrétienne, il travaille avec des pasteurs pour les aider à un peu répondre aux besoins des personnes sans-abri à Vancouver. Puis moi, pour ma part, je travaille à Wycliffe Canada, donc c'est une organisation qui traduit la Bible dans des langues minoritaires autour du monde. Donc, en fait, j'ai commencé mon poste à Wycliffe quand Daniel Genet m'a engagée. Donc, je ne sais pas si Hector et Céline sont là aujourd'hui, mais lui aussi a grandi dans cette église. Donc, il y avait une belle représentation de l'église Oasis ou l'église DDO dans ce mouvement de la traduction de la Bible. Puis bref, aujourd'hui, je vous parle en tant qu'une jeune femme qui a été formée dans ce sanctuaire, puis qui a rencontré Dieu au chalet des Tracis, puis qui a été à l'école du dimanche en bas, puis plusieurs d'entre vous étiez mes enseignants à l'école du dimanche, c'est le fun. Donc, c'est familier pour moi ici. Mais je vous parle aussi en tant qu'une ouvrière à Wycliffe qui veut vous inviter à faire partenariat avec nous dans le travail de partager la parole de Dieu et l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, comme on lit dans Actes 1-8. À Wycliffe, on croit que toute personne détient le droit. C'est vraiment un droit d'accéder à la Bible dans la langue qu'il ou elle comprend le mieux, la langue qui parle à son cœur. Parce que la langue fait vraiment partie de notre identité. Il y a quelque chose de vraiment important puis de puissant qui se passe quand on lit les mots de la Bible, les mots de Jésus, dans la langue dans laquelle notre mère nous aurait confortés quand on était enfant, ou dans la langue dans laquelle on rêve ou on pense, ou dans la langue dans laquelle on exprime notre amour aux personnes autour de nous. Pour les personnes de langue minoritaire, surtout, c'est particulièrement puissant parce qu'ils voient les mots de Jésus dans leur langue. Donc, quand ils voient que Jésus parle leur langue, ça veut dire que Dieu, ce n'est pas juste un Dieu étranger qui appartient à d'autres communautés, c'est leur Dieu aussi. Puis notre Dieu, il parle le grec, il parle l'hébreu, mais il parle toutes les langues maternelles qui sont représentées dans cette salle. Je serais curieuse d'entendre quelles sont les langues maternelles qui sont dans cette salle. Vous pouvez le dire tout haut. On a le français. Ouais. Quoi d'autre? Anglais. Le lingala. Voilà. Créole, espagnol. Ouais, il y a beaucoup de langues. Ouais. Waouh! Il y en a beaucoup à l'Oasis, c'est le fun! Il y a beaucoup de langues maternelles qui sont représentées ici. Puis cette semaine, j'ai lu l'histoire d'un homme qui, pour la première fois, a pu tenir dans ses mains une Bible traduite et imprimée dans sa langue. Puis après avoir lu quelques passages, il a dit, « quand je lisais la Bible dans la langue nationale de mon pays, donc la langue qui était officielle, mais pas sa langue minoritaire, il dit, quand je lisais la Bible dans la langue nationale, c'était comme si ma Bible était toujours un peu couverte. Mais maintenant que je lis la Bible dans ma langue, la parole de Dieu est claire pour moi. La bonne nouvelle est finalement claire pour moi. Donc, à Wycliffe, on entend à chaque jour des histoires comme ça, de l'impact des Écritures traduites. Donc, puisque je travaille dans ce ministère qui a la traduction de la Bible, je me suis dit qu'aujourd'hui, ce serait approprié de parler de la Bible avec vous. Puis pour cela, je vais commencer par vous raconter une histoire qui a lieu en Europe au 16e siècle. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelait William Tyndale. William Tyndale, c'était un linguiste, c'est un professeur à l'université Cambridge en Angleterre. Puis il est devenu complètement aisé en grec et en hébreu pour enseigner. Puis ainsi faisant, il a pu lire la Bible en son entièreté. Puis quand il a lu la Bible en son entièreté, il en est venu à deux conclusions qui vont peut-être sembler un peu évidentes à tout le monde dans cette salle, mais qui étaient complètement radicales à son époque. La première conclusion, c'est que la Bible devrait être considérée la source d'autorité et l'axe de notre réalité, et non pas le pape, non pas la tradition chrétienne, mais la Bible seule devrait être l'autorité. Et que toute personne qui suit Jésus ou qui est disciple de Jésus devrait pouvoir lire la Bible dans sa propre langue, dans la langue dans laquelle il parlait. Puis bon, ces deux conclusions nous semblent peut-être un peu évidentes aujourd'hui, mais c'est parce qu'on vit dans un monde après Tyndale et un monde après la Réforme. Mais dans son temps, ce que disait Tyndale, c'était complètement dangereux, parce que c'était même illégal à l'époque de traduire la Bible. Puis en fait, il y avait une loi en Angleterre qui avait été établie en 1408 pour freiner une personne dont le nom était John Wycliffe, qui essayait de traduire la Bible en anglais. Mais Tyndale, lui, il avait vraiment une conviction là, que la Bible devait être plus accessible aux personnes dans son entourage qui ne parlaient pas le grec ou l'hébreu ou le latin, dans laquelle la messe avait lieu souvent. Donc, il a fui. Il est allé en Allemagne, où la réforme allemande était en train de se passer. Puis, il a commencé à traduire la première version de la Bible en anglais. Vous voyez une petite image de lui ici? Je vais y arriver. Mais en gros, l'idée, c'est que c'était un peu pour protéger l'autorité de la Bible. Il se disait, on veut la rendre un peu, on veut la garder dans la langue dans laquelle elle était. C'est une façon de juste s'assurer qu'elle restait un peu dans le contrôle des autorités ecclésiales. Ecclésiales, c'est le mot? Oui. Donc, une fois que la traduction était terminée en 1526, il a passé en contrebande 18 000 Nouveaux Testaments en Angleterre, dans des balles de coton, en fait. Puis des chrétiens ont commencé à tenir des rassemblements secrets pour lire la parole de Dieu pour la première fois. Tout ce qu'ils connaissaient avant, c'était la messe en latin qu'ils ne comprenaient pas vraiment. Hein? Donc, c'était puissant, là. C'était les mots de Jésus dans leur langue. Mais le roi, Henri VIII, était furieux quand il a appris que tout ceci était en train de se produire. Il a acheté 8 000 des 18 000 copies et les a brûlées. Il a passé une loi de détruire toutes les Bibles qui avaient été traduites par Tyndale, puis de mettre à mort toute personne qui en avait une. Le roi a même engagé quelqu'un à trouver Tyndale en Allemagne, se lier en amitié avec lui et le trahir. Puis c'est ça qui est arrivé, en fait. Quand Tyndale était encore en Allemagne, en train de travailler maintenant sur l'Ancien Testament, il est devenu ami avec cette personne, la personne l'a trahi. Tyndale a été torturé pendant un an. Il a refusé d'abjurer à ses actions, puis il a été brûlé vif. Puis à son exécution, en 1536, il était vraiment considéré un hérétique, simplement pour traduire la Bible. Puis alors qu'il se faisait brûler, ses derniers mots étaient « Seigneur, ouvre les yeux du roi de l'Angleterre ». Puis Dieu a répondu à cette prière. Henri VIII a retracté ses actes, un peu trop tard malheureusement, et a fini par permettre que la Bible en son entier soit traduite en anglais. Puis ce qui est intéressant, c'est que le grand risque que je souligne dans cette histoire auquel Tyndale a fait face, c'est un risque semblable à ce que Martin Luther a vécu quand il a traduit la première Bible en allemand. C'est le même risque que Jacques Lefebvre d'Étaples et Pierre-Robert Olivetan ont traduit quand ils traduisaient la première Bible en français. La parole de Dieu que vous tenez entre vos doigts aujourd'hui, c'est bien par la grâce de Dieu, puis c'est à cause de la fidélité de ces hommes de Dieu-là que vous l'avez. Puis toutes ces personnes que je nomme vivaient à l'époque des réformes. Donc pendant ce temps-là, plusieurs chrétiens ont été martyrisés parce qu'ils essayaient simplement de partager ce qui était dans les Bibles qu'ils venaient de recevoir puis d'être capables de lire. Ils étaient en train de se faire tuer juste pour les rendre disponibles pour partager ces vérités-là avec leurs entourages. Donc, je vous raconte tout ceci, pas seulement pour vous donner une idée du début du mouvement de traduction de la Bible ou de l'histoire, mais aussi pour qu'on se pose les questions suivantes. Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre, dans ces Écritures saintes, qui est tellement spécial que tant de personnes ont été prêtes à donner ou à dédier leur vie à la traduire et à la partager, qui ont été même prêts à mourir et souffrir ou mourir pour que vous et moi puissiez la lire aujourd'hui? Puis en même temps, on se pose la question, qu'est-ce qui se trouve dans ce livre que tellement de dirigeants d'empires dans l'histoire étaient prêts à torturer et tuer pour que cette Bible ne se trouve pas dans vos mains aujourd'hui? Pourquoi la Bible est-elle perçue tellement comme une menace? Pourquoi change-t-elle le monde? Puis pour répondre à cette question, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va regarder à ce que Jésus lui-même dit sur la Bible. C'est quoi la Bible d'après Jésus? Donc, on va lire ensemble le passage pour aujourd'hui dans Matthieu 5, 17 à 20. Est-ce que vous arrivez à voir? Ça se fait? OK. Sinon, peut-être ouvrez vos Bibles, puis on peut lire ensemble. Pour un peu de contexte, je vais juste vous donner un peu de contexte avant qu'on commence à lire. Ça, c'est les mots de Jésus après qu'il ait commencé le sermon sur la montagne, où il a dressé la liste des béatitudes. Les béatitudes, c'est toutes les bénédictions de Dieu, comme « Heureux les pauvres en esprit », car le royaume des cieux est à eux, heureux les affligés, car ils seront consolés, etc., etc. Le sermon sur la montagne, souvent, on la conceptualise un peu, ou on le conceptualise, comme l'image, la représentation, le résumé ou l'ensemble des enseignements de Jésus. Mais dans ce passage qu'on va lire maintenant, il explique que ces enseignements, donc les enseignements de Jésus, qu'ils soient dans ce sermon ou à travers son ministère, viennent compléter les Écritures saintes juives de l'Ancien Testament que son entourage connaissait. Donc, on va lire ensemble ce passage. Il dit ceci. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pas pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Amen. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vraiment rapidement souligner quatre points qui sont nommés ou sous-entendus par Jésus quand il décrit les Écritures dans ce passage. Puis mon but, c'est vraiment de un peu vous aider à retrouver ou à découvrir ou redécouvrir la puissance, la beauté de la parole de Dieu et l'importance de la partager avec ceux qui ne l'ont pas. Donc, numéro un, Jésus souligne que la Bible est fiable. On va s'y mettre. Donc, je vais prendre un peu plus de temps sur ce point. En disant, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota et un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Moi, ça me rappelle d'un passage ou d'un verset dans Ésaïe 55, 11 qui dit, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. » sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » C'est tellement une bonne nouvelle, amen. On peut faire confiance aux vérités de la Bible. Dieu parle, il parle aujourd'hui, il continue de parler à travers cette collection de livres, en partie. On sait qu'il parle aussi à travers son esprit, des révélations prophétiques parfois, etc. Mais il parle à travers cette collection de livres qu'est la Bible. Ça vaut la peine de penser au fait que la même Bible que j'ai lu dans mon culte personnel cette semaine, vient me chercher a aussi changé la vie de William Tyndale, a aussi changé la vie de Martin Luther et a aussi changé la vie des croyants persécutés dans l'Église secrète en Chine, puis a aussi changé la vie d'un pasteur en Amérique du Sud, etc., etc. Ça devrait nous dire que la Bible et tout ce qu'elle enseigne a un message qui transcende le temps, le contexte et la culture et qui vient résonner avec tout humain. La Bible vient affirmer un besoin de la condition humaine. Ça vient chercher quelque chose en chacun de nous. Puis je pense qu'on vit dans un temps où les gens en reprochent beaucoup à la Bible. Ils vont dire, ouais, mais la Bible était écrite par des humains. Il y a des contradictions ici et là. Comment est-ce qu'on peut dire que la Bible est complètement fiable? Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est divine? Je comprends pas. Puis la réalité, c'est que Dieu il cache pas que la Bible c'est une collaboration entre lui et les humains. Hein? C'est son esprit qui a dynamisé les personnes qui ont écrit la Bible. C'est pas juste leurs opinions. Ils n'ont pas juste écrit n'importe quoi. Mais c'est pas non plus une dictée par Dieu. C'est pas comme s'ils entendaient des mots puis ils les transcrivaient non plus. C'est le souffle de Dieu à travers les auteurs de la Bible. Donc, c'est un peu particulier. Mais une image qui m'aide, moi, j'avais l'exemple d'un saxophone, mais je vais utiliser c'est une clarinette que tu jouais aujourd'hui? Un saxophone digital. Je savais pas que ça existait, mais j'aime ça. Donc, c'est un peu comme un joueur de saxophone digital. T'as le saxophone, puis t'as le joueur. OK? Est-ce qu'on dit, ah, oh, c'est l'instrument qui joue de la bonne musique? Mais c'est pas non plus le musicien qui joue seul la musique. C'est le musicien à travers l'instrument qui joue la musique. Vous voyez un peu? Donc, c'est l'art et l'aptitude du musicien qui se concrétise à travers la capacité, le potentiel, les limites de cet instrument. Vous me suivez? Donc, c'est un peu la même idée avec la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui se fait entendre à travers une personne qui a ses propres compréhensions scientifiques, sa propre vision du monde, puis son propre contexte. Donc, c'est important de comprendre cette nuance. C'est vraiment le souffle de Dieu à travers quelqu'un. Puis quand je pense à la fiabilité de la Bible, il faut des fois que je me rappelle que, en fait, c'est pas nécessairement une position orthodoxe de dire qu'il y a zéro tension dans la Bible. Puis je pense que des fois, on a le goût d'un peu faire des réclamations pour la Bible que la Bible ne fait même pas pour elle-même. Aucun théologien a dit qu'il n'y a pas de tension dans la Bible. Donc, si jamais vous sentez un peu en lisant la Bible, OK, je ressens une petite tension, je trouve que ça ici, je lis ceci, puis là-bas, je lis quelque chose d'un peu différent. C'est normal, en fait, qu'il y ait cette tension, puis c'est correct d'un peu vivre dans cette tension, puis de l'accepter. Il faut juste qu'on se rappelle que la Bible ne cache pas le fait qu'elle est une collaboration entre un Dieu qui est parfait et puissant et omniscient, puis des humains qui sont brisés et qui sont affectés par le péché. La Bible représente un mystère qui est divin. Puis il faut accepter cet élément de mystère en lisant la Bible. Mais comme le dit Jésus, clairement ici, la Bible est tout de même fiable. Et je peux dire que dans ma propre vie, j'ai vécu ceci. Dans des moments où je prenais des décisions difficiles, des fois, j'ai ouvert ma Bible, puis elle m'a parlé vraiment clairement. Elle a parlé clairement à mon cœur. Puis je vois à quel point elle a été fiable, puis que Dieu a été fidèle à travers sa parole pour moi. Puis je le vois aussi dans des histoires à Wycliffe, comme celle d'un jeune homme dans le sud-est de l'Asie qui vivait dans un endroit, ou qui vit dans un endroit très sensible, où il y a beaucoup de conflits civils. Ouh! C'est le fun! La Bible est plus fidèle que des fois la technique. ouais, donc il se cachait de manifestations. Il se cachait parce qu'il entendait des bombes en dehors de la fenêtre de chez lui, puis il a ouvert sa Bible. Puis il nous a dit après, par un miracle, quand je lisais la Bible, Dieu m'a immédiatement donné sa paix. Mon cœur est devenu léger et paisible quand je lisais les promesses de la parole de Dieu. Puis dans Matthieu 24, 35, Jésus dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Donc bref, mon premier point, c'est que la Bible est fiable. Mon deuxième point, c'est que la Bible est une source d'autorité. Puis Jésus a de grands mots pour ceux qui osent minimiser le pouvoir de la parole de Dieu. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans les royaumes des cieux. C'est quand même pas rien. Dans l'Ancien Testament aussi, on voit que Dieu commande au peuple d'Israël d'écrire la loi sur leur cœur, de l'enseigner à leurs enfants. C'est une source d'autorité. Puis ça ne vient pas changer avec la venue de Jésus. Ses disciples, eux aussi, ils sont appelés à se soumettre à l'autorité de cette parole. Puis, c'est pas pour n'importe quelle raison. Dans 2 Timothée 3, 16 et 17, on lit « Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre, ou prêt pour toute bonne œuvre. » En bref, la Bible, c'est pas juste de l'information, c'est pour notre formation. Donc, on peut répéter ça ensemble. La Bible, c'est pas juste de l'information, c'est pour notre formation. C'est bon. Vous m'écoutez, c'est le fun. Quand on décide de suivre Jésus et de prendre sa parole au sérieux, on devrait voir quelque chose de différent dans plusieurs aspects de notre vie, hein? Dans nos relations, dans notre temps, dans notre argent. Parce que la Bible aborde tous ces sujets et nous invite à être formés en l'image de Jésus dans ces parties de notre vie. Et le fait que la Bible est fiable, comme j'ai mentionné tantôt, le point 1, nous aide à nous soumettre à son autorité. Puis on peut faire confiance à son autorité et pas avoir peur de cette autorité à cause du prochain point. Puis c'est que la Bible est bienveillante. Jésus dit dans notre passage, « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Pour moi, un moment assez charnière dans ma vie, c'est quand j'étais adolescente, puis je parlais avec ma cousine d'un passage de la Bible que, entre vous et moi, je trouvais un peu niaiseux. Je ne comprenais pas pourquoi c'était une loi. Je me disais, ma vie chrétienne serait vraiment plus simple si ça ne faisait pas partie de la Bible, cet aspect-là. Je le confesse, je ne suis pas fière de ce moment, mais ça faisait partie de mon cheminement. Puis ma cousine m'a gentiment dit, bon, premièrement, Jess, t'es pas Dieu. Donc, ça, c'était le premier point. Mais deux, elle dit aussi, rappelle-toi que ton Père céleste est bon, donc ce qu'il demande de toi est bon. Puis ça, c'était vraiment important pour moi d'entendre ça. Mon Père céleste est bon, donc ce qu'il demande de moi est bon. Et pour mon bien, et pour le bien de son royaume. Hein? Puis finalement, il ne va pas te laisser seul non plus avec sa loi. Il ne fait pas juste dire, OK, voici la loi, bye, bonne chance. Il te donne son esprit pour accomplir ce qu'il demande de toi. Puis par sa grâce, tu vas pouvoir suivre sa voie. Ça aussi, c'est une très bonne nouvelle. Puis ça nous aide. Ça nous rappelle que quand on parle de l'autorité de la Bible, on n'a rien à craindre parce que notre Dieu céleste est amour. Puis il nous aide à accomplir sa voie ou à accomplir sa loi. Sa parole est bonne, elle est juste. Ça aussi, ça vaut un gloire à Dieu, n'est-ce pas? Bon, le quatrième point, c'est probablement le point le plus important. C'est le premier point que Jésus a fait, mais j'ai gardé pour la fin parce que c'est mon point préféré. il dit, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu pour abolir, non pas pour abolir, mais pour accomplir. » Donc, le quatrième point, c'est que Jésus est le début, le centre et la fin de la Bible. Il est le point culminant de cette histoire de la Bible. Ce qui était intéressant, c'est que Jésus a dit la même chose dans un autre passage, à un autre moment dans son ministère, lorsqu'il est dans la synagogue. Puis on va lire ceci dans Luc, chapitre 4. Ça commence au verset 14. « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. » Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se retrouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, elle est accomplie. » Amen. Donc, comme vous le savez sans doute, Jésus était juif, et puis il n'avait évidemment pas accès au Nouveau Testament, mais il avait accès, puis il connaissait très bien l'Ancien Testament. La loi, l'histoire des patriarches, les psaumes, tous ces passages faisaient partie de la vision du monde de Jésus puis de sa culture. Puis dans cet extrait, Jésus fait la lecture d'une prophétie poétique du 8e siècle avant lui, B.C., donc très longtemps avant sa naissance. Puis il conceptualise cette prophétie un peu comme une histoire qui recherche une fin. Okay? C'est une histoire qui recherche une fin. Puis il dit, c'est moi la fin de cette histoire, c'est moi le point culminant de cette histoire, c'est moi qui viens accomplir tout ce que la loi aborde. Tout ce qu'on lit dans la Bible nous pointe à Jésus. Puis je pense que c'est ça un peu le quatrième point que je veux vraiment souligner. Tout ce qu'on lit dans la Bible pointe à Jésus, que ce soit avant, après ou lors de sa vie. Quand on faisait des cellules à l'église, ce qui me fait rire, c'est qu'on faisait souvent des pièces de théâtre. Puis les enfants tracés se rappellent de ça, nos pièces de théâtre, c'était un peu... c'était moyen, disons. Mais il y a une raison que la plupart d'entre nous ne sommes pas... Ben, que chacun de nous, on n'est pas des comédiens maintenant, parce que c'était pas super fort, mais bon... On essayait de cerner un peu la morale des histoires de la Bible, OK? Donc, on lisait des histoires dans l'Ancien et le Nouveau Testament, puis on essayait de trouver un message vraiment clé à partager avec, pas notre audience, c'est quoi le mot? Notre public, OK? Donc, David et Goliath, Dieu va nous aider à vaincre les méchants. Le sacrifice d'Isaac par Abraham, il faut être prêt à tout donner pour Dieu. L'arche de Noé, il y a beaucoup d'animaux dans le monde. Quelque chose... Bon, j'exagère, mais bon. L'idée, c'est qu'on essayait de tirer une conclusion de différentes histoires de la Bible, OK? Mais en réalité, moi, je réalisais pas que toutes ces histoires ne devraient pas être étudiées en isolement, OK? Nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on lisait l'histoire de David et Goliath, puis on essayait d'en tirer un message. Mais ce qu'on manquait, puis en passant, je ne suis pas en train de dire que c'est une mauvaise chose d'étudier une histoire puis d'en ressortir un message, mais il faut juste... pas oublier qu'il y a un risque d'oublier que chaque histoire de la Bible fait partie d'une grande histoire, d'un plus grand récit qui nous mène ultimement à... Voilà, vous l'avez. La vie de Jésus, par exemple, ou pardon, de David, par exemple, c'est pas juste l'histoire d'un homme qui a vaincu un géant, qui est devenu un roi puissant, qui a commis l'adultère, etc., etc. C'est l'histoire d'un Dieu qui a travaillé à travers David pour ultimement mener à Jésus. Chaque page de notre Bible est comme une étape ou un pas littéraire en direction de Jésus-Christ et de l'établissement de son royaume. Donc, il faut se rappeler, comme Jésus l'a fait dans ce passage aujourd'hui, qu'il vient accomplir l'histoire de la parole vivante et transformatrice de Dieu. Puis, c'est la plus belle histoire du monde. Puis, je veux rajouter que la Bible, c'est comme une histoire qui est alternative, OK, à l'histoire qui nous est racontée par le monde, disons. Donc, je pense que c'est un peu ça le titre que j'avais dit à mon père l'autre jour. Oh, voilà. La Bible, c'est une histoire alternative, OK? On tire notre compréhension, en tant qu'humain, on tire notre compréhension de la moralité, de l'héroïsme, de la vertu, à partir de récits qu'on entend dans nos familles, dans nos lieux de culte, dans nos écoles, dans toutes les sphères de notre vie. Même quand on y pense, comme les publicités qu'on écoute à la télévision, c'est des histoires qui nous sont racontées, puis ça nous donne le goût d'acheter. Hein? Donc, eux, ils ont compris là, qu'on répond, on est formé par des histoires. Donc, vous voyez un peu à ce que je veux en venir. Les humains, on répond à des histoires, on est formé par des histoires, puis chaque jour, on est façonné par des contes, par des récits, des drames, des mots. Puis, quand je pense à l'évangélisation, par exemple... Puis je ne suis pas en train de parler contre l'apologétique. C'est une bonne chose d'avoir des bons arguments. Mais quand on y pense, la plupart d'entre nous qui sommes devenus croyants, est-ce qu'on a répondu à l'appel de Dieu en perdant un argument? Probablement pas. On a répondu à l'appel de Dieu parce qu'on a entendu une histoire qui résonnait avec notre cœur. Donc ça m'aide un peu parce que je ne suis vraiment pas bonne dans tout ce qui est arguments et débats. Donc, OK, raconter une histoire, c'est de l'évangélisation. Ça, j'aime ça. Une histoire qui est vraie puis qui va résonner avec le monde. Ça, j'aime ça. Puis, voilà, c'est une histoire qui transforme notre réalité puis notre compréhension de tout ce qui est autour de nous. Donc, je veux raconter juste rapidement l'histoire d'un sociologue ou un philosophe en Amérique du Sud. Après des décennies de troubles et de changements en Amérique du Sud, on a un jour demandé à ce philosophe qui s'appelle Ivan Illich, quelle est la meilleure façon de changer une société? S'agit-il d'une révolution violente ou d'une réforme graduelle et progressive? Puis sa réponse était vraiment révélatrice. Il dit, ni l'un ni l'autre. Si vous voulez changer une société, vous devez raconter une histoire alternative. Puis comme j'ai mentionné plus tôt aujourd'hui, la Bible raconte une histoire qui est vraiment cruciale. Puis c'est une histoire qui est fiable. C'est une histoire qui a de l'autorité. C'est une histoire qui est bienveillante. Puis qui a Jésus comme son point culminant. Donc, c'est pour ça que la Bible est tellement puissante est tellement une histoire qui est belle, puis qu'il y a des gens qui ont été prêts à mourir pour la rendre disponible. Puis c'est aussi une histoire qui a fait tomber des empires, hein, comme quand on pense à la citation de ce philosophe sud-américain, il dit « Pour changer une société, pour avoir une révolution, il faut être capable de raconter une histoire alternative. » Mais la Bible, elle a fait ça. Elle a changé le monde sans tirer un seul coup de fusil, quand on y pense. Donc c'est puissant, ça parle de cette puissance de la Bible. Donc quand on lit la Bible, on est en train de dire au monde autour de nous « Ça, ce livre, c'est l'histoire de la réalité dans laquelle je veux participer. C'est la réalité dans laquelle je veux vivre. Pas les histoires, pas les morales et les absolus du monde. Ça, c'est l'axe de ma réalité. Ça, c'est mon autorité. » Donc, je vous invite à faire ceci cette semaine, de redécouvrir à nouveau cette puissance qui est dans la Bible. Mais bon, aussi, je suis ici pour Wycliffe, donc je vais aussi vous inviter à raconter l'histoire de la Bible et l'histoire de Dieu avec d'autres. OK? Donc, en donnant le don de la parole de Dieu avec des personnes qui sont sans Bible, on est en train de participer à cette histoire où on fait partenariat avec Jésus en partageant la parole de Dieu ou l'histoire de Dieu avec les autres. Donc, je serais curieuse de savoir, vous pensez qu'il y a combien de langues dans le monde? J'entends 600. Quoi d'autre? 1000? 300? 20 000, OK, on a comme vraiment des bons... OK, on a plusieurs. Donc, il y a 7 000 langues dans le monde. 7 000 langues dans le monde. Oui, 7 000. Mais une personne sur 5 dans le monde n'a accès à aucun verset de la Bible dans une langue qu'elle comprend. Zéro. 1,5 million de personnes n'ont pas la Bible complète dans leur langue. Ça veut dire qu'ils ont peut-être des portions de la Bible dans leur langue, ou ils ont peut-être quelques versets, ou peut-être qu'ils ont juste le Nouveau Testament. Mais sans la parole complète dans leur langue, des personnes vont demeurer dans l'obscurité spirituelle. On croit vraiment ça à Wycliffe. La foi chrétienne a besoin de la parole de Dieu. Okay? C'est pourquoi la traduction de la Bible est tellement importante, parce que la Bible est importante. La Bible est puissante, donc la traduction de la Bible est nécessaire. Donc, ce travail de la traduction de la Bible fait en sorte que des personnes autour du monde peuvent découvrir et recevoir pour la première fois, comme imaginez avec moi pour un instant, recevoir pour la première fois votre Bible. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai eu ma propre Bible. J'étais jeune, j'avais peut-être, je ne sais pas, 3-4 ans, puis j'ai eu ma première Bible, j'avais tellement hâte. Imaginez un croyant qui a 96 ans, qui a vécu avec Jésus toute sa vie, puis la première fois dans sa vie, il a une Bible dans sa langue qu'il peut lire pour lui-même. C'est puissant quand même. À Wycliffe, on parle souvent du jour où la dernière personne dans la communauté linguistique minoritaire la plus retirée du monde a finalement aux écritures traduites. Pardon, a finalement accès aux écritures traduites. Notre espoir est de voir le jour où toute personne a la Bible. Donc, plus personne, plus aucune femme, aucun homme, aucun enfant ne sera sans Bible. Puis ce jour-là, toutes les personnes pourront vraiment faire la connaissance de Jésus puis de voir cette Bible qui est fiable, qui a autorité, qui est bienveillante et qui pointe à Jésus. Mais jusqu'à ce jour, la traduction de la Bible ne peut et ne doit pas s'arrêter. Puis je veux ajouter que dans le monde, il y a beaucoup de traducteurs de la Bible qui font face à des risques comparables à ceux que j'ai soulignés dans l'histoire de William Tyndale ce matin. Dans mon travail, j'ai souvent des histoires de traducteurs de la Bible qui sont emprisonnés ou qui travaillent dans le secret pour traduire la Bible. En mars, j'ai appris la vraiment triste nouvelle qu'il y a un traducteur de la Bible camerounais qui a été kidnappé et même tué par des hommes armés dans son pays, alors qu'il rentrait de chez lui après avoir fait un atelier sur la traduction de la Bible dans sa communauté. Donc, priez avec moi pour ce ministère, parce que c'est un ministère qui est tellement important. Le message de la Bible mène des gens partout autour du monde à faire de très grands sacrifices pour la partager. Donc, si vous pouvez aussi, donc non seulement vous pouvez prier, mais vous pouvez aussi donner. Donc, j'ai mis le lien pour donner. Il y a wycliffe.ca/give ou -give, / give, pardon. Ou sinon, vous pouvez venir me parler après le service, puis je peux vous rajouter peut-être à notre liste de courriels ou quelque chose du genre. Parce qu'on veut faire partenariat avec vous. C'est vraiment important, ce travail. Puis je veux terminer par dire que la traduction de la Bible, ce n'est pas seulement un don pour les locuteurs de langues minoritaires autour du monde, c'est aussi un don pour l'ensemble du corps de Christ, puis de l'Église globale et multilingue. Okay? Chaque culture, Chaque langue a une capacité particulière et unique à transmettre la vérité sur Dieu et sa bonne nouvelle d'une façon qu'aucune autre langue ne peut le faire. Ça veut dire que chaque fois qu'une nouvelle Bible est traduite puis qu'on célèbre une nouvelle traduction dans le monde, des nouvelles idées ou des nouvelles compréhensions de Dieu ou du message chrétien sont mises à la disposition de nous tous. Par exemple, je vous donne un exemple. Dans la culture occidentale, on parle souvent d'individualité. Okay? On a un grand emphase sur l'individu hein, dans notre culture, vous êtes d'accord? Mais ceci est reflété un peu hein, dans notre spiritualité puis dans notre culture croyante. Par conséquent, ça affecte notre conception de Dieu. On parle d'un sauveur personnel. On parle d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Puis ces choses sont bibliques à 100 %. Mais c'est important de voir que dans d'autres cultures, il y a d'autres emphases dans la foi chrétienne. Donc, par exemple, dans d'autres cultures, on parle beaucoup d'harmonie ou de shalom, de paix. Puis le fait que la venue et la mort et la résurrection de Jésus vient restaurer cette paix et ce shalom. C'est ça le point qui résonne le plus fort de l'Évangile dans cette culture-là. Est-ce que vous me suivez? Chaque culture a une emphase particulière, une compréhension de Dieu qui vient bénir l'ensemble de l'Église. C'est un peu comme à l'Action de grâce, tous les plats qui sont sur la table, ce ne serait pas un festin complet si on n'avait pas la dinde ou qu'on n'avait pas la farce. Ça crée un festin complet, un festin qui est plus délicieux puis qui est plus beau, essentiellement, quand chaque personne peut amener son plat à la table. La révélation de Dieu à travers les Écritures, c'est comme un banquet aussi. Puis chaque groupe linguistique et chaque culture a sa vision unique de la parole de Dieu à apporter à la table. L'Apocalypse 7-9, voilà, nous offre une belle image, puis je vais finir ici. Et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Amen. Amen. Il y a tellement de locuteurs de langues minoritaires dans le monde qui ont soif, qui ont faim pour la parole traduite dans leur langue. Donc, je vous invite aujourd'hui à étancher leur faim, à nourrir leur âme, puis à partager la parole de Dieu avec moi, avec nous à Wycliffe. Vous pouvez les inviter à la table, les inviter au royaume de Dieu pour se régaler avec nous. Merci.